des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Jean Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Alors, à la fin de votre dernière chronique, vous nous avez annoncé pour aujourd'hui Madame de Staël. Est-ce que vous pouvez justifier votre choix, s'il est justifiable?
Oui, je vais essayer. Bon, d'abord, Madame de Staël, qui est née Anne-Louise Germaine Necker, ce nom vous dit quelque chose, j'y reviendrai.
Necker, oui.
C'est un écrivain beaucoup, beaucoup plus important qu'on ne le dit en général. On l'a enfermée, en fait, dans une espèce de placard, coincée qu'elle est entre le 18e siècle, dont elle est l'héritière incontestable, et le 19e qu'elle a, pour ainsi dire, inauguré brillamment. Et on lui a fait au surplus une réputation d'insupportable bas-bleu, sans doute parce qu'à l'époque, on tolérait mal qu'une femme puisse prétendre au statut public de grand écrivain et de personnalité politique. Et cela d'autant moins qu'elle revendiquait, pour les femmes en général, et pas seulement pour elles, un rôle très différent de celui que la culture du temps voulait bien leur accorder. Bonaparte en était responsable. C'était l'empereur des misogynes, comme vous savez sans doute. Bref, Madame de Staël est un monument un peu abandonné, on ne le visite plus guère. Elle ne figure même pas dans la collection de la Pléiade, ce panthéon de la littérature. Je me demande bien pourquoi. Et j'avoue qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas souvent visité son œuvre. Alors j'ai voulu tout simplement en avoir le cœur net.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui vous la mettriez dans la Pléiade?
Ah, sans hésitation, oui, car son rôle littéraire est très important et son œuvre le mérite. Et puis disons que à la revisiter, à la revoir, j'ai pu constater que la statue n'était pas si inanimée qu'on le pense. D'abord, c'est effectivement une grande féministe, et c'est loin de m'être indifférent, peut-être le savez-vous. Ensuite, elle a véritablement la fibre politique, au meilleur sens du mot. Alors, il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai esquissé, qu'elle a été élevée dans le sérail, puisque son père n'est autre que Necker, le dernier grand ministre de la royauté, celui dont le renvoi a provoqué le 12 juillet 89, c'est-à-dire 48 heures avant la prise de la Bastille, les événements d'où est sortie la Révolution française.
Qui était là pour les états généraux, etc., etc.
C'est ça. Tout est parti du renvoi de Necker, finalement. Enfin, disons que c'est l'étincelle qui a provoqué l'incendie. C'est pas à cause de Necker qu'on a eu la Révolution française, mais c'est son renvoi qui a marqué l'explosion du mécontentement populaire. Alors, elle-même joue depuis son plus jeune âge un rôle d'influence, parce que sa maman a un salon où elle brille, et un salon important où fréquente des gens comme Buffon, s'il vous plaît, Marmontel, qui est un des collaborateurs de la Grande Encyclopédie, un des deux frères Grimm. Elle aura par la suite son propre salon, ensuite, où elle recevra, sous l'Empire, là encore, les plus grands noms du monde des lettres européens, y compris Benjamin Constant, qui a été un de ses amants, un de ses amours, pour être plus précis.
Et ensuite, elle a été exilée par l'empereur Napoléon lui-même.
Oui, c'est presque ça, c'est pas tout à fait ça. C'est le gouvernement impérial lui impose en 1803, l'Empire est à peine né, lui impose de ne pas séjourner à moins de 40 lieues de Paris. Alors, elle va choisir d'aller en Suisse et, entre-temps, elle visite l'Italie, l'Allemagne, où elle est reçue en triomphe, où des gens comme Goethe, Schiller sont complètement séduits par elle, par cette espèce d'appétit insatiable qu'elle a de tout comprendre. C'est vrai que c'est une grande intellectuelle. Bref, elle va devenir, face au régime impérial, qui entre-temps a pris de l'autorité, et une autorité de plus en plus dure, elle va devenir le symbole, le parangon, l'éponyme d'une certaine liberté, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de critiquer, la liberté de déranger, elle dérange beaucoup, la liberté pour les femmes de s'élever au-dessus de la condition que la société leur a réservée. Vous savez bien que le Code Napoléon fait le contraire, puisque le Code Napoléon a renvoyé les femmes dans leur cuisine, dans leur lit conjugal, et là où on élève les enfants. Alors, le gouvernement impérial fait saisir par le bras armé de Fouché 2000 exemplaires de son livre « L'Allemagne », qui sont mis au pilon. Donc, les relations avec le gouvernement impérial sont dures. Alors, elle va quand même le publier, ce qui est un crime de lèse-empereur, et, circonstance aggravante, elle va le faire paraître en Angleterre, en 1813. Alors là, évidemment, on lui pardonne encore moins que la première fois. On l'assigne à résidence forcée, à Coppet, en Suisse, sur la rive nord du lac Léman, pas très loin de Genève, et on exile tous ceux, tous celles qui étaient ses amis, à commencer par Madame Récamier.
Alors, est-ce que pour autant, Madame de Staël est républicaine ?
Non, non. Elle a vu arriver avec faveur la tempête révolutionnaire, dont on ne savait pas encore d'ailleurs que ce serait une tempête, parce qu'elle appartient à ce grand courant d'idées du XVIIIe siècle, de la liberté de penser, et puis elle croyait que cette révolution permettrait de donner du corps, une réalité aux utopies de Jean-Jacques Rousseau, qui sont la source de son inspiration. Hein. On pourrait presque dire qu'elle est disciple de Jean-Jacques Rousseau. Mais non, elle n'est pas révolutionnaire, puisqu'elle va concocter en 90 un plan d'évasion pour le roi. En réalité, elle est partisane d'une espèce de monarchie constitutionnelle. Alors, les républicains, évidemment, voient ça d'un mauvais œil. Quant aux ultras d'extrême droite, ils ne veulent pas de la monarchie constitutionnelle. Donc, elle est rejetée par les deux camps. Alors, elle n'a qu'une solution. Elle décide de fuir Paris dès 1792. Donc, j'ai un petit peu mélangé les époques. Effrayée. C'est le point de son départ, c'est le cas de le dire, par les massacres de septembre, vous savez, cette horrible boucherie qui, sans distinction, a massacré des prêtres, des aristocrates, des condamnés de droit commun. Bon, alors elle rejoint la Suisse, comme nous l'avons vu.
Vous avez parlé des activités politiques de Madame de Staël. Quant à ses activités littéraires, sa plume...
Oh, elles sont nombreuses, hein. C'est une superwoman. Elle a produit des essais de morale, en particulier des réflexions sur le suicide...
Ah oui.
Oui, que j'avoue, je n'ai pas lu, mais je me suis proposé de lire. Des écrits politiques, comme ses considérations sur les principaux événements de la Révolution française, des volumes de critiques littéraires, elle en a consacré un tout entier à Jean-Jacques Rousseau, ça ne vous étonnera pas, son œuvre la plus célèbre à l'époque est son traité de l'Allemagne, où elle procède à une espèce d'analyse au scalpel de la personnalité de base germanique, de la culture germanique, des mœurs, de la religion... où elle salue avec brillance, on pourrait dire, la naissance du romantisme, qui pour elle est tout entier incarné par les auteurs du nord de l'Allemagne, au premier rang desquels, naturellement, Goethe. Et Heine, le grand poète Heine, écrira avec humour, elle s'était échauffée en France et vint en Allemagne apaiser son cœur bouillant et embrasé. Et c'est déjà pas mal, mais ça surtout, l'Allemagne lui a paru comme un nébuleux pays d'esprit, au pluriel, où des hommes sans corps et de toute vertu se promènent sur des champs de neige.
Ça se prépare à une œuvre romanesque, ça.
Non, elle s'est bien envoyée.
Qu'en est-il des romans de Madame
de Staël ? Alors, essentiellement deux romans, Delphine, paru en 1802, l'année où meurt son premier mari, le comte de Staël, Holstein, ancien ambassadeur de Suède à Paris, qui était considérablement plus âgé qu'elle, de 17 ans, je crois. Et puis en 1807, au sommet de son art, Corinne ou l'Italie, qui va devenir, pour une génération entière, et peut-être même la suivante, quelque chose comme le bréviaire de l'amour idéal. Et c'est de Corinne que j'ai choisi de vous dire un mot. Alors, je vais aller à l'essentiel, parce que c'est un pavé, Corinne. Corinne raconte les amours, disons, périlleuses, incertaines en tout cas, de l'héroïne du même nom, une poétesse de renommée mondiale qui a le don particulier d'improviser des poèmes superbes en public, devant le grand public de l'époque. Des amours donc avec un Anglais qui est tout le contraire, un certain Lord Oswald Newild, qui est un grand mélancolique, lui. Elle le séduit tout simplement en lui faisant découvrir toutes les splendeurs de la Rome antique, de Naples, de Venise. Bref, elle l'emmène en Italie, dans une espèce d'itinéraire sentimental, de voyage sentimental. Bon, il voudrait l'épouser, parce que naturellement, il a succombé à son charme. Il se passe rien entre eux, ce sont des amours extrêmement chastes, mais c'est des amours absolus. Alors, elle hésite parce qu'elle a peur de le rejoindre, de l'accompagner en Angleterre, où elle sait bien que les mœurs assez rigides, puritaines, vont se choquer de sa personnalité de femme libre, de femme qui a un renom, qui se produit en public. Bref, il part en promettant naturellement de lui garder une amour éternelle, mais finalement, il est ressaisi par l'Angleterre, par le spleen, par le cricket, par le thé à 5 heures, le 5 o'clock, l'apesanteur des conventions, et il en épouse une autre, elle mourra, rideau. Voilà,
patatras.
Corinne ou l'Italie, patatras.
Dites donc, c'est un peu fleur bleue, ça, non?
C'est pas fleur bleue, c'est romantique.
Ah.
Eh oui. Et il y a vraiment la quintessence du romantisme, là. Il y a la passion, élevée à la hauteur d'un idéal, et qui, à la limite, tient lieu d'idéal. Il y a l'amour des ruines, très important, pour nourrir la mélancolie. Il y a ce qu'on pourrait appeler les frissons d'âme. Il y a l'exploration des relations complexes entre deux êtres et deux sexes, mais deux êtres qui s'aiment inégalement parce que elle est, comment dirais-je, entièrement, absolument fidèle, alors que lui est un homme faible. Elle va être trahie par lui puisqu'il va en épouser une autre. Et au passage, c'est un règlement de compte avec le sexe faible. Enfin, je veux dire, les hommes qui sont incapables de fidélité. Et puis surtout, il y a l'exaltation des grands sentiments. Je ne sais pas si vous réalisez, comme on dit en mauvais français, à quel point les temps modernes, les temps post-modernes nous ont privés des grands sentiments. Il n'y en a plus. Il faut aller les chercher dans les romans de gare et encore, ou dans les séries TV de dernière zone. Littérairement parlant, nous sommes, artistiquement parlant, on pourrait dire, nous sommes la proie d'une pensée unique, rassurez-vous, qui n'est ni de gauche ni de droite, mais qui répute exécrable toute référence à un idéal. Et sous prétexte qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, on nous en inflige de mauvais, qui font parfois de bien mauvaises littératures. Hein, on ne devient pas Sade ou Céline à volonté. Notre époque est cynique, sa sensibilité est émoussée. Il lui faut de la violence pour se réveiller, beaucoup de violence, du sexe, beaucoup de sexe, et surtout des sensations jusque dans l'écriture. Nous manquons d'âme, on pourrait dire.
Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu passéiste, cher Jean Mauduit ?
Oui, vous allez me dire qu'il faut vivre avec son temps, et j'en conviens volontiers. Mais ça n'empêche pas d'être lucide, même à l'égard de ce qu'on apprécie. Pour vous faire une confidence, je raffole personnellement des romans noirs, les grands, hein ? Pas les mauvais. J'aime bien les experts, je suis planté devant mon téléviseur. J'aime beaucoup 24. J'apprécie beaucoup l'art du suspense, la capacité de nouer une intrigue, les tableaux de mœurs, où excelle toute une production américaine et post-américaine, sans parler des romans, sans parler d'œuvres comme Les Bienveillantes, par exemple, qui est un monument, un sommet d'abjection, mais on est obligé de dire un chef-d'œuvre haïssable, mais un chef-d'œuvre. Donc, non, je suis tout à fait de mon temps, je crois. Mais pour apprécier ce qu'on vous donne, il faut savoir ce qu'on a perdu. Et en tout cas, c'est la grille de lecture indispensable pour entrer sans trop de difficulté dans une œuvre comme Corinne ou l'Italie. Le style est superbe, mais il relève de cette écriture oratoire, qui prend ses distances avec le réel, avec la réalité, et qui a longtemps prévalu dans notre production littéraire. Quant au récit, il est coupé en deux. Il y a d'une part une partie qu'on pourrait considérer comme un long prélude, une longue exposition, ou peut-être comme un livre à part, qui serait le de l'Italie en pendant à de l'Allemagne. Et puis d'autre part, une partie où le drame se noue, les cœurs saignent, la brûlure des sentiments. Là, c'est très beau, c'est très émouvant, peut-être un peu passéiste, pour reprendre votre petite flèche de tout à l'heure, très prenant, mais je crois qu'il faut être capable de mériter aussi ces joies-là. Et peut-être que nous aurions intérêt, je terminerai par là, à redécouvrir avec Madame de Staël et avec d'autres le plaisir extrême de la lenteur.
Est-ce que vous pourriez nous faire le plaisir, Jean Mauduit, de nous lire un petit peu de
je
Corinne?
Je ne sais pas si c'est un plaisir, mais je vous ai prévu trois passages, ils sont courts, rassurez-vous, qui sont assez symboliques. Le premier se situe précisément dans le traité de l'Italie, qui est la première partie, où Oswald et Corinne sont déjà là, mais ils participent ensemble à ce voyage à travers l'Italie antique. Et disons que c'est le temps où ils apprennent à se connaître. On pourrait intituler cette partie « Les flammes du passé ». Oswald ne pouvait se lasser de considérer les traces de l'antique Rome, du point élevé du Capitole où Corinne l'avait conduit. La lecture de l'histoire, les réflexions qu'elle excite, agissent bien moins sur notre âme que ces pierres en désordre, que ces ruines mêlées aux habitations nouvelles. Les yeux sont tout puissants sur l'âme. Après avoir vu les ruines romaines, on croit aux antiques romains comme si on l'avait vécu de leur temps. Les souvenirs de l'esprit sont acquis par l'étude, les souvenirs de l'imagination naissent d'une impression plus immédiate, plus intime, qui donne de la vie à la pensée et nous rend, pour ainsi dire, témoins de ce que nous avons appris. Un portique debout à côté d'un humble toit, des colonnes entre lesquelles de petites fenêtres d'église sont pratiquées, un tombeau servant d'asile à toute une famille rustique, produisent je ne sais quel plaisir de découverte qui inspire un intérêt continuel. Rome, plus souvent qu'aucune autre, présente le triste aspect de la misère et de la dégradation, mais tout à coup, une colonne brisée, un bas-relief à demi détruit, des pierres liées à la façon indestructible des architectes anciens, vous rappellent qu'il y a dans l'homme une puissance éternelle, une étincelle divine, et qu'il ne faut pas se lasser de l'exciter en soi-même et de la ranimer dans les autres. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, alors, on est au contraire dans la valse des grands sentiments, et on va assister à une courte scène où chacun des deux sait que l'autre l'aime, où le désir est en train de naître entre eux, mais où la pensée même du désir est aussitôt écartée, vous allez voir, ou plutôt vous allez entendre. Ils aperçurent alors dans la mer le reflet d'un flambeau qu'une main inconnue portait sur le rivage en se rendant secrètement dans la maison voisine. « Il va voir celle qu'il aime, » dit Oswald. « Oui, » répondit Corinne. « Et pour moi, » reprit Oswald, « le bonheur de ce jour va finir. » Les regards de Corinne, élevés vers le ciel en cet instant, se remplirent de larmes. Oswald craignit de l'avoir offensée et se prosterna devant elle pour obtenir le pardon de l'amour qui l'entraînait. « Non, » lui dit Corinne en lui tendant la main et l'invitant à s'en retourner ensemble. « Non, Oswald, j'en suis assuré, vous respecterez celle qui vous aime. Vous le savez, une simple prière de vous serait toute puissante. C'est donc vous qui répondez de moi. C'est vous qui me refuseriez à jamais pour votre épouse si vous me rendiez indigne de l'être. Eh bien, répondit Oswald, puisque vous croyez à ce cruel empire de votre volonté sur mon cœur, d'où vient Corinne? D'où vient donc votre tristesse? Hélas, reprit-elle, je me disais que ces moments que je passais avec vous à présent étaient les plus heureux de ma vie, et comme je tournais mes regards vers le ciel pour l'en remercier, je ne sais pas par quel hasard une superstition de mon enfance s'est ranimée dans mon cœur, la lune que je contemplais s'est couverte d'un nuage, et l'aspect de ce nuage était funeste. J'ai toujours trouvé que le ciel avait une impression tantôt paternelle, tantôt irritée, et je vous le dis, Oswald, ce soir, il condamnait notre amour. » Bon, ça doit pas être simple d'être amoureux de Corinne, hein. Bon. Dernier passage très court. C'est le dernier chant de Corinne, la musique de la mort en quelque sorte. Elle se livre en public à sa dernière improvisation, son dernier chant. « Recevez mon salut solennel, ô mes concitoyens. Déjà la nuit s'avance à mes regards, mais le ciel n'est-il pas plus beau pendant la nuit ?» Souvenez-vous que la nuit est une des grandes amies des romantiques, hein, les nuits de Musset, on aime la nuit, pas le jour. Mais le ciel n'est-il pas plus beau pendant la nuit? Des milliers d'étoiles le décorent, il n'est de jour qu'un désert. Ainsi les ombres éternelles révèlent d'innombrables pensées que l'éclat de la prospérité faisait oublier, mais la voix qui pourrait en instruire s'affaiblit par degrés, l'âme se retire en elle-même et cherche à rassembler sa dernière chaleur. Quand les desseins de la Providence sont accomplis sur nous, une musique intérieure nous prépare à l'arrivée de l'ange de la mort. Il n'a rien d'effrayant, rien de terrible, il porte des ailes blanches, bien qu'il marche entouré de la nuit, mais avant sa venue, mille présages l'annoncent.
Merci beaucoup Jean Mauduit, merci d'avoir ranimé l'envie de lire Madame de Staël, ou plutôt Anne de Staël, parce que pourquoi n'aurait-elle pas un prénom?
Bien sûr.
Après tout, Anne-Louise Germaine Necker.
On l'appelle plutôt Germaine d'ailleurs. Enfin, les historiens de la littérature l'appellent plutôt Germaine, oui.
Alors merci. Je rappelle aux auditeurs que les références bibliographiques sont disponibles sur notre site www.canalacademique.com ainsi que toutes les chroniques que vous avez déjà faites, Jean Mauduit. Quelle sera la prochaine femme écrivaine que vous allez croquer?
Alors, j'ai découvert un livre assez extraordinaire, enfin découvert, le mérite ne m'en revient pas, on me l'a conseillé, et j'ai béni celle qui me l'a conseillé. L'auteur s'appelle Milena Agus, et le titre est « Mal de pierre ». C'est un roman brûlant, extraordinaire, aux antipodes de ce que nous venons d'évoquer, mais qui mérite un détour. Je vous en parlerai, je vous parlerai peut-être d'un autre, mais que cet autre, je n'ai pas encore lu, donc je réserve mon jugement.
Très bien. À très bientôt, Jean-Maudit. Au revoir.